Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Point de presse attendu aujourd'hui de Christian Dubé, Dr Horacio Arruda, également Daniel Paré, qui bon couvert plusieurs sujets, mais un qui est attendu de beaucoup, Mario, c'est...
Mais attendu depuis pas, parce que ce matin, ce qu'on nous avait fait circuler...
On allait devoir attendre.
Non, aujourd'hui, c'est de la vaccination, puis Noël, ce serait peut-être jeudi.
Mais, finalement...
Dr. Arruda a travaillé en accéléré ce matin.
C'est ce qu'on nous a dit. Et ça, je ne sais pas si dans le ton, Mario, t'aimes ça, mais quand Christian Dubé, qui au début dit « Ah, à la fin, là, j'ai une petite surprise pour vous », puis là, la petite surprise, c'est qu'il nous récompense là en permettant aux personnes vaccinées de se
j'aime
réunir
pas tant
à Noël.
J'aime pas tant ce ton-là, non, mais... Si je compare ça, parce que quand même Christian Dubé annonçait ça à la fin d'un point de presse où il y avait 8 autres nouvelles. T'sais?
Oui.
Si je compare ça avec François Legault, qui aurait convoqué la presse jeudi juste pour nous annoncer, ah ben là, je vous ai préparé un petit Noël. J'aime ça 1000 fois aujourd'hui. Là.
OK.
1000 fois
qu'on
mieux.
Parce qu'on a glissé ça. Mais si c'est quand même ce que les gens attendent beaucoup comme information.
Oui, mais quand
même. Tu fais pas un gros show avec ça.
Puis quand même, Christian Dubé a pas fait le Père Noël. Là. Il a dit... Oui, il a dit dans sa conférence de presse, j'ai une petite surprise pour la fin. Mais quand il est arrivé dans la petite surprise, il nous a pas niaisé. Il a pas fait... il a pas, tu sais, mis le bonbon au bout d'une corde puis te le fait pendre comme un pendule au bout du nez. Il a dit ce qu'il en était. Puis il a dit, de toute façon, il a eu l'honnêteté de dire, de toute façon, on le surveillera pas. Là. Il n'y a pas de police qui va le surveiller. C'est la responsabilisation de chacun. Ça, j'aimais ça.
Bon. Je vais vous donner l'information précise. 20 personnes, donc vaccinées, sont permises dans les parties de Noël. En fait, dans les parties à partir du 23 décembre. Alors, on pourra se réunir davantage. Présentement, la limite est 10. Et là, on dit personnes vaccinées. Mais on répète quand même, tu le disais, on n'a pas l'intention d'envoyer la police pour vérifier. On n'est pas dans la coercition.
C'est une recommandation. Prudence.
Tout à fait. Donc, on dit quand même, vous pouvez vous réunir. En raison, faut dire, de particulièrement le système de santé qui n'est pas surchargé en ce moment. Omicron ne s'est pas installé encore au Québec, ce qui permet d'en arriver là. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de Christian Dubé qui parle un peu de la... Lui voit ça comme une récompense pour les Québécois qui ont bien travaillé, on peut l'entendre.
Avec la situation qu'on vit en ce moment, malgré les incertitudes, je pense qu'il est important de récompenser les Québécois pour l'excellent travail au niveau de la vaccination, le respect des règles. On va continuer à travailler ensemble puis à suivre ça de très proche pour que tout le monde puisse passer un beau Noël.
Ouais. Mais ça, la récompense, est-ce qu'il n'y a pas de récompense? Tu juges, tu vas faire plus de cas ou moins de cas, c'est une gestion.
Ouais, si le système de santé était sur le bord de craquer, les gens auraient fait les mêmes efforts. Puis, mais c'est probablement une conséquence, dans le sens que c'est une conséquence de... si la parce que dans le fond, on a à peu près le même nombre de cas, un peu moins, mais que l'année passée à pareille date, là, avec... 5-10 fois moins de monde à l'hôpital, 10 fois moins de décès. Ça, c'est le résultat d'une forte vaccination. Là.
Oui, absolument.
Ce qui fait que les cas ne se traduisent pas en hospitalisation, en personnes malades, en soins intensifs et en décès. Là. Ça, c'est...
Il y a quand même une... Là où il y a un point d'interrogation, c'est après les fêtes. Là. Alors, il y aura peut-être un prix à payer à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui est, rassure, c'est que là, en ce moment, c'est Delta. Micron n'est pas arrivé, ou à part peut-être dans quelques cas, mais pas installé au Québec du tout. Et Christian Dubé disait, là, on se bat contre Delta. Ça se peut très bien qu'en janvier, février, on se batte contre Omicron. Donc, il y a quand même de l'incertitude sur ce qui s'en vient. Ce qui amène à parler de la troisième dose. Parce que dans le point de presse, il a parlé de la vaccination des enfants qui allait bien. Il a parlé du fait qu'Omicron ne circulait pas encore au Québec. Mais là, la troisième dose, on a besoin d'aller de l'avant, de sorte qu'on ouvre la vaccination vaccination en troisième dose à un plus grand nombre de Québécois. On touche aux travailleurs de la santé, les femmes enceintes, membres de communautés éloignées, ceux qui souffrent de maladies chroniques. Mais on est limité quand même parce qu'on manque de vaccinateurs. Là. Il y a moins de gens qui sont disponibles pour l'opération de vaccination. Alors, on peut pas vacciner nécessairement autant comme on voudrait, surtout qu'on a des doses. Mais en ce moment, la machine roule un peu moins à plein régime.
Puis, on se concentre sur les enfants quand même.
Oui.
Ils prennent une grosse partie des places disponibles, des rendez-vous disponibles en vaccination.
Vaccination qui va bien pour les enfants. D'ailleurs, je vais vous faire entendre Christian Dubé qui tenait à rassurer parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'inquiètent là, de la troisième dose, qui pourrait prendre un peu plus de temps à arriver si on dépasse le 6 mois. Tenait à dire, il n'y a pas de panique à avoir si vous avez dépassé votre 6 mois. Je vous le fais entendre.
Je répète aussi, pour ces gens-là qui seraient inquiets de dire pourquoi je peux pas recevoir ma troisième dose, mais encore une fois, on ne change pas en citrouille après le 181e jour. La protection est toujours très bonne, et plus votre âge baisse, ben plus votre protection, elle est toujours bonne. Alors on pense qu'il est quand même, avec la recommandation de la santé publique, correct d'attendre jusqu'au début de janvier.
Ouais, c'est pas comme le minuit dans l'histoire de Cendrillon, là.
C'est ça. C'est une baisse qui va être vraiment graduelle.
Puis tout ça. Puis pas tant que ça au niveau des formes graves de la maladie. C'est plus sur le risque de d'être réinfecté. Mais, parce qu'on a dit pour les 60 ans et plus, là, ça sera seulement après, ça va être disponible, mais à partir du début janvier. Mais moi, j'ai des gens qui m'écrivent quand même présentement, puis qui ont 70 ans et plus, donc qui sont dans les groupes déjà admis à la vaccination, à la troisième dose, et qui me disent qu'ils n'ont pas de rendez-vous de toute façon. Pour les raisons qu'on a mentionnées, ils n'ont pas de rendez-vous en décembre. Il n'y a pas de plage horaire disponible, il n'y a rien de disponible. Donc, les premières ouvertures qu'ils ont, c'est les premiers jours de janvier. Donc, il semble que dans certaines régions, on est déjà rendu là. Je sais pas si c'est des gens qui ont regardé un peu plus loin, des gens nous écrivent, là, je sais pas toujours exactement ce qu'ils ont fait comme effort ou comme recherche, mais ils me disent, on n'avait pas de place, là. On a pris notre rendez-vous, on avait le droit, mais on a pris notre rendez-vous début janvier, là, parce que...
Et vous dire, pour les enfants, je vous dis que ça allait bon train. On est à 43% des enfants de 5 à 11 ans qui ont pris leur rendez-vous, première injection. Et il dit, là, les deux prochaines semaines sont critiques pour pouvoir avoir la plus grande couverture possible avant les fêtes. Alors, on invite les parents à se dépêcher à ce niveau-là. Et la machine va tenter de rouler le plus vite possible pour vacciner le plus d'enfants possible.
La déception que j'ai, parce que pour moi, pour ce qui est de Noël, je trouve ça bien correct, mais la déception que j'ai dans ce point de presse-là, c'est sur la disponibilité pour les familles de tests rapides. Bon, les gens en garderie, eux autres, dans le fond, ceux qui ont des enfants en garderie ou des enfants aux primaires vont être privilégiés, vont avoir des tests à la maison qu'ils doivent utiliser prioritairement pour les situations scolaires, mais qu'ils pourraient utiliser aussi dans le temps des fêtes. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui leur interdit s'ils ont le temps.
C'est vrai.
Par contre, pour le reste du public, là, Monsieur Paré de la vaccination, qui semble aussi être devenu le responsable de la distribution des tests rapides, l'avoir trouvé un deuxième job, a dit... Bon, quand on va avoir distribué à toutes les garderies, puis à toutes les écoles primaires, puis là, on était rendu, je pense, à, je sais pas, là, 5 millions, 6 millions de tests. S'il nous en reste de plus du fédéral, là, on va les distribuer au grand public. Mais moi, je compte les jours. Le réveillon, c'est dans 17 jours, Vincent, là. Puis là, on parle de millions de tests sur un territoire gigantesque comme le Québec, là, qui en est au Témiscamingue, qui en est en Gaspésie. Je sais pas. Je pense qu'on n'en aura pas. Et ça me ramène à ma frustration. Moi, s'il y a des tests gratuits, je veux dire, je suis pas contre qu'on les donne au monde plutôt que des jeter puis qu'ils passent date, là. Mais je suis pas en attente. Je suis pas une personne qui est en attente du gouvernement pour tout, là. Je veux dire, je vois en Europe, je vois aux États-Unis, je vois dans d'autres pays que dans des commerces légaux pour quelques dollars, 10, 15, 20 dollars à dollar canadien, même en Allemagne, dans un supermarché pour 4 piastres ou 3 piastres, tu peux avoir un autotest. Et je comprends pas que moi, comme citoyen au Canada, mon gouvernement me prive que je puisse aller à la pharmacie dépenser mes sous pour aller acheter quelque chose qui serait utile pour protéger ma famille. Je suis sincèrement frustré de ça.
Ouais, les gens vont dépenser dans le temps des fêtes pour un paquet de trucs inutiles.
Mais là, regarde, je pense qu'il y a bien des familles qui diraient, si t'es cassé, là, on va mettre une bouteille de vin de 3 piastres de moins, la bouteille sur la table, puis on va aller chercher un test. Non, mais
j'avoue que même chez les gens qui ont des membres de la famille non vaccinés, que ça les inquiète, c'est parfait. Tu viens, mais on a un test
tester.
Rapide.
Il y a des personnes âgées à la table. Puis parmi les gens, les convives, il y en a, même s'ils sont vaccinés, mais il y en a qui travaillent dans le public, qui ont travaillé avec des collègues à côté jusqu'à la veille au soir. Il y a plein de circonstances où les gens seraient plus à l'aise de dire, regarde, on va faire le test, on va être sûr pour 8 piastres. Puis là, tout l'espoir, c'est comme, c'est tellement dur de parler de la santé au Québec, au Canada, parce que, tu fais une semaine, j'essaie d'amener ce débat-là, puis je me fais toujours ramener. Tu sais, je suis comme une auto, là, hier, dans ce lot, que t'es ramené dans le sillon. Je suis toujours ramené dans le sillon de, ouais, ouais, mais là, les tests gratuits, il y en a 10 millions. Je le sais, là, je suis pas fou, je l'ai entendu, il y a 10 millions de tests gratuits, on pourrait les distribuer.
On les aura pas.
Bon, ils auront probablement pas, mais, est-ce qu'il faut toujours attendre après le gouvernement, après 10 000 tests gratuits du gouvernement? On a des commerces, on a des pharmacies, on pignon sur rue. Il y a des tests, des autotests qui sont vendus partout. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et dans toute l'Europe. Ben, ça se fait que nous autres, au Canada, on puisse pas avoir ça sur la tablette. 9,82 $. Oui, madame, merci, je vais en prendre deux. Puis, je comprends pas. Je sais pas. Des fois, ce qui me fait suer, failli dire pire, c'est qu'en bout de ligne, je le sais que c'est quoi la vraie raison. C'est parce que c'est un mélange de notre côté socialiste. On aime ça quand c'est le gouvernement qui paye, puis c'est gratuit, puis c'est égal pour tout le monde, puis tout ça. Et un mélange aussi de, on nous prend pour des innocents, on nous prend pour des enfants. Souviens-toi du masque, là, tu comprends, on allait se mettre les doigts dans tous les mauvais orifices, puis on allait s'arracher le nez avec le masque. Fait que finalement, c'était mieux qu'on n'aille pas.
Oui.
Puis le mois d'après, ben là, ça nous prenait le masque. Là. Mais fait que il y a un peu de ça. Là. J'ai l'impression qu'ils se disent, ah ben là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Les autotests, là, ils vont
se tester dedans, au lieu de mettre la bave.
Ils vont mal se tester.
Passons. Chacun des partis d'opposition aujourd'hui ont réclamé une enquête publique conjointe, donc fait conjointement sur la gestion de la pandémie. On sait qu'il y a une pression depuis longtemps maintenant des partis d'opposition sur pour de réclamer une enquête publique sur la gestion particulièrement de la première vague. Mais là aujourd'hui, libéraux, solidaires, péquistes l'ont fait conjointement dans un point de presse à l'Assemblée nationale. Dominique Anglade, la chef libérale, disait que cette question-là dépassait largement la question de la partisanerie, alors qu'elle était aux côtés de Vincent Marissal, député solidaire, Joël Arsenault, chef parlementaire du Parti québécois. Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, faisait une comparaison avec ce qui s'est passé des suites de la mort de la fillette de Granby, là, disant, après ce décès-là, d'une fillette dans des conditions épouvantables, on n'a pas fait une commission juste sur Granby ou juste sur la DPJ en Estrie. On a examiné l'ensemble de notre système de protection de la jeunesse. C'est ce qu'il réclame dans ce dossier-là, alors que François Legault dit qu'il y a des enquêtes. Il y en a déjà là-dessus. Je vous le fais entendre d'ailleurs, François Legault, qui a été rapidement là, questionné par les médias, entre autres sur les annonces d'aujourd'hui par rapport à Noël et tout ça, mais aussi sur la demande d'enquête publique. Vous allez entendre sa très courte réponse.
Vous êtes satisfait de la décision de la santé publique?
Ben, très content là, qu'enfin les familles vont pouvoir se rassembler à 20. C'est important pour la santé mentale des Québécois.
Les oppositions demandent une enquête publique qui sont mises les trois ensemble.
Il y a déjà trois enquêtes.
Donc, ça change pas votre décision?
Bon, il a dit non. Alors, il y a déjà trois enquêtes. Ça suffit pour François Legault.
Je comprends les partis d'opposition. Je pense qu'il y a une partie qui est de la stratégie. Je pense qu'il y a une partie qui est sincère. Ils veulent que la lumière soit faite, puis tout le monde le veut. Je pense qu'il y a une partie qui est de la stratégie. Ils savent que le gouvernement va dire non, puis je veux dire, il y a rien de plus fun dans l'opposition que demander tous les jours une commission d'enquête que le gouvernement refuse, puis là tu te dis, ah ben regarde, il y a quelque chose à cacher. Tu sais, c'est comme c'est une stratégie de base. Moi, c'est le public, là, c'est la population dont je suis pas certain. Là, il y a trois enquêtes en cours, puis pas des petites quand même. L'enquête de Jeanne Kamel, la coroner présentement, c'est une enquête longue depuis le mois de mars, je pense qu'elle questionne sur les CHSLD. Et là, elle vient de la prolonger, elle vient de dire, ouais, avec les rapports, parce que elle fouille, là. Puis quand elle est pas contente, quand elle n'a pas les rapports qu'elle veut, elle fouille, elle questionne davantage, elle fait revenir la sous-ministre deux fois. Et là, elle va continuer après les fêtes. Là, tu te dis, OK, on est-tu bien certain? Est-ce que le public veut vraiment ça, là, t'sais, recommencer une enquête? Et là, j'ai entendu des partis d'opposition qui disent, non, mais c'est pas une enquête là-dessus, c'est pas sur les CHSLD, là. C'est sur l'ensemble de la gestion de la pandémie. Donc, incluant le ministère de l'Éducation, tout ce qui s'est fait, tous les ministères,
la ventilation.
La police, la ventilation, etc. Alors, c'est des années, là. T'sais, c'est une commission qui dure des années. Donc, il pourrait commencer, je sais pas si tu l'as créé, elle pourrait commencer au printemps, l'été prochain, travailler pendant deux ans et demi, trois ans, faire
tout son rapport. Tu vois ça comme la commission Charbonneau, là. À peu près même taille, années de pratique.
Mettons que ce serait un peu moins long, six mois de moins. La commission Charbonneau a duré trois ans?
À peu près, ouais.
Ouais. Disons deux ans et demi. Deux ans et demi, c'est-à-dire, en 2025, tu aurais le rapport des recommandations appliquées en 2026? Faut y penser, tu sais, c'est une chose de crier à l'Assemblée nationale d'avoir une commission d'enquête publique. Faut que tu t'assoies, tu dis, OK, on dépense 40 millions, tous deux ans et demi, Dans les rapports, mettons, si on commence mi-2022, ça veut dire qu'on a le rapport, mettons, fin 2024, début 2025.
Surtout qu'il y a des erreurs restent de pandémie qu'on ne ferait pas une deuxième fois, avoir une autre pandémie.
On le saurait, de un. De deux, il y a des choses qui sont pas niées. Le constat, l'erreur qui a été commise, on a tout mis l'accent sur les hôpitaux, on a négligé les CHSLD. Bon, c'est grave, il y a eu un coût élevé. Mais est-ce que personne, à mon souvenir, personne ne le nie, là. François Legault l'avoue, l'ancienne ministre McCann l'avoue, les sous-ministres l'avouent, le reconnaissent, expliquent dans quel raisonnement ils l'ont fait. Mais là, tu sais, à la commission Charbonneau, les gens disaient, non, il n'y a pas de collusion, pis tout ça, transport, non, pas de collusion. Finalement, oups, dans les municipalités. Tout. Mais là, les gens reconnaissent. Tu peux dire que ça a été une grave erreur, mais fait que c'est pour ça que moi, je suis pas certain que le public, au fond de lui-même, veut vraiment cette commission d'enquête.
Tout savoir en 24 minutes.
Dans les meilleures nouvelles, aujourd'hui, l'équipe derrière le vaccin Medicago annonçait des résultats intéressants par rapport à l'efficacité de ce vaccin. Donc, l'étude de phase 3 de Medicago et du géant GSK a donné des résultats positifs, démontrant un taux d'efficacité de 75,3% pour le Delta, donc variant qu'on combat présentement. Pour l'efficacité générale, à tous les variants, c'est 71%, de sorte qu'on peut demander immédiatement l'approbation de réglementaire de Santé Canada dans le cadre de la demande d'examen continu, là, alors où on a déjà envoyé des chiffres, des données à Santé Canada. On s'est dit très fiers aujourd'hui chez Medicago des résultats. Ça peut vous paraître moins, c'est moins que ce qu'on annonçait lors des premiers vaccins, là, Pfizer et les autres.
Mais c'est une comparaison injuste, là.
Ouais, parce que faut dire, le virus originel, celui de la souche de Wuhan, ne circule plus.
Et il était moins sévère, là.
Il était moins sévère et les vaccins étaient faits aussi, avaient été conçus à l'époque où on avait ce virus-là. Tandis que là, le Medicago, on le travaillait déjà alors que c'était le virus originel. Il a changé depuis bêta, delta, et là, on va être rendu à l'Omicron, de sorte que les données ont changé. Et si présentement, on avait le taux d'efficacité exact pour delta et les autres de Pfizer, Moderna...
À mon avis, Pfizer, Moderna, pour le delta, là, t'es plus dans ces ordres de grandeur-là, 75-80%. T'es plus dans ça.
Exact. Et là, c'est un vaccin fait différemment. On sait, premier vaccin au monde produit sur des plantes, donc à usage humain. Distribution des doses qui pourrait s'amorcer dès le début de l'an prochain avec 76 millions de doses qu'on pourrait produire. C'est déjà commencé. Alors, ça permettrait d'avoir un vaccin différent, efficace contre la COVID, sachant que ce combat-là va durer quand même assez longtemps.
Mais si on a une vaccination annuelle, c'est une excellente chose d'avoir un vaccin canadien de un. De deux, et ça, j'avais pas allumé, mais quelqu'un m'a fait remarquer que parmi la multitude des raisons d'être anti-vaccin, parce qu'il y a toutes sortes de raisons, mais il y en a qui accrochent sur l'ARN messager, puis qu'à l'heure dans la recherche, il y a eu l'utilisation de cellules souches. Bon, et surtout, c'est vraiment des motifs religieux, là, des gens des religions très, très pointues, mais qui en font un gros cas. Il y en a même qui avaient demandé au pape là, de dire non au vaccin basé là-dessus, puis tout ça. Et donc, peut-être ce vaccin entièrement à base de plantes pourrait convaincre. Ben, à moins que ces gens-là veulent pas être vaccinés, ils vont trouver un autre défaut.
Affaire,
ils vont trouver une nouvelle affaire. Mais si c'est sincèrement cette crainte bizarre, là, puis je vois pas le fondement religieux, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ben, des choses que j'ai fondement que je vois pas. Peut-être que ça pourrait en convaincre d'aller en chercher 1 ou 2% de plus. Ce serait ça de gagner.
Le bilan des cas aujourd'hui au Québec est à 1234 nouveaux cas, 5 décès, 9 hospitalisations, moins 4 aux soins intensifs. C'est en hausse encore fortement par rapport à la semaine dernière où on avait 784. La semaine dernière, c'était le mercredi où on avait eu le bond là, de 700
ouais,
à 1200.
Parce que les gens vont moins se faire tester le week-end. Fait que les gens qui vont se faire tester toute la journée du lundi, c'est les données, les résultats qu'on compile le mardi puis qu'on nous donne le mercredi matin. Donc, demain matin, j'ai hâte de voir. Là, tu vas voir le reflet de la journée de lundi. Les gens qui ont eu des petits malaises en fin de semaine, mais il y a moins de centres de tests ouverts la fin de semaine. Là, demain, on va voir le portrait. C'est là que moi, je vais avoir... Sincèrement, j'ai peur que demain, on ait un gros chiffre. Là.
Ouais, qu'on voyait, la semaine dernière, on avait quand même fait le saut. Alors, on verra demain si ça se poursuit. Du côté des États-Unis, Anthony Fauci, qui a fait le point sur Omicron. Là, on sait que ce nouveau variant inquiète beaucoup. Et tenait à dire que dans les informations prédictives préliminaires qu'on a, on voit qu'Omicron est clairement hautement transmissible, probablement plus que le Delta. Par contre, au niveau de son de sa dangerosité, est-ce qu'il est moins grave selon Anthony Fauci, pour l'instant, on dit il est quasiment certain qu'Omicron n'est au moins pas plus grave que Delta. On soupçonne qu'il pourrait l'être moins, ce qui serait une bonne nouvelle.
C'est ce qu'il faut espérer, parce que s'il est pas plus grave, s'il est aussi grave,
c'est un pire variant.
Variant. Il est plus contagieux, puis il est aussi grave. L'espoir, c'est qu'il soit plus contagieux. Bon, mais c'est pas positif ça, mais qu'il soit vraiment moins sévère. Donc, qu'il amène pas à la mort, qu'il amène peu aux soins intensifs ou pas du tout aux soins intensifs, etc.
Et qui tasse un variant plus dangereux.
Ben oui, alors, ça serait une bonne nouvelle.
On aurait des réponses là-dessus d'ici les prochaines semaines. Aussi sur la réinfection possible malgré le vaccin. Alors, on aura des réponses sous peu. On dit une semaine à deux semaines, on devrait commencer à avoir plus d'informations sur Omicron. Est-ce que le gouvernement, Mario, doit investir dans un stade de baseball? La question se pose aujourd'hui et a fait réagir beaucoup de monde, puisque la presse a rapporté que le groupe de Stephen Bronfman, qui est derrière la construction d'un nouveau stade de baseball au bassin Peel, espérait recevoir des centaines de millions de dollars pour leur projet, dont la valeur peut atteindre jusqu'à 1 milliard, sur différentes formes. Subventions, des prêts pardonnables, l'objectif, dit-on, serait d'arriver à un coût nul pour les contribuables. Ça a fait sortir plusieurs personnes aujourd'hui, entre autres la Fédération canadienne des contribuables, qui dit ne pas croire à cette idée de coût nul, ne pas croire que les contribuables bénéficieraient de ce genre d'investissement et que le gouvernement Legault devrait passer son tour. À peu près même son cloche du côté de Dominique Anglade, qui a carrément dit, elle, que le gouvernement prend les gens pour des cons s'il croit qu'on peut arriver à un coût nul. Alors que Pierre Fitzgibbon...
Par contre... Mon souvenir, c'est que le Parti libéral, il se faisait une fierté. Le centre Vidéotron, là, c'était leur bébé.
Oui, ça n'a pas été à coup nul pour l'instant. Mais
non.
Ça peut être différent au baseball. On ne sait pas. Fitzgibbon, aujourd'hui, ministre de l'Économie, disait qu'il y avait effectivement des discussions en cours, qu'il n'y avait rien annoncé et qu'il était prématuré de dire quoi que ce soit en ce moment et que les promoteurs doivent présenter le projet à la population, que les gens puissent regarder le projet et le commenter.
Mais la palme de la démagogie du jour, du populisme, revient quand même à Gabriel Nadeau-Dubois, là, qui a dit quelque chose du genre qu'il pouvait pas croire qu'on donnait de l'argent, on avait des centaines de millions pour le baseball, alors que les CHSLD, les gens mangeaient. Puis je sais que politiquement, là, ça passe au bulletin de nouvelles, puis ça marche, les gens vont dire, hey, c'est donc bien bon ce qu'il a dit, mais
oui,
c'est le summum...
On n'a même pas de maïs dans un pâté chinois.
C'est le summum de la démagogie. C'est comme si c'était... Le gouvernement a des sommes pour aider l'économie, faire des prêts aux entreprises, puis tout ça. La question n'est pas de savoir... On coupera pas l'argent d'un CHSLD pour le mettre là. On investit dans des entreprises. La question est de savoir, peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois pourrait dire, ben moi... Il y a certains types d'entreprises dans lesquelles on ne devrait jamais investir. Exemple, le sport professionnel. Ça tu as le droit de dire ça. Moi, je vais vous faire deux listes d'industries. Celle dans lesquelles on peut investir et celle dans lesquelles on n'investira jamais. Mais tu peux pas faire croire aux gens que ça, c'est l'argent des CHSLD et des repas en CHSLD qu'on prend pour aller à Investissement Québec, par exemple. Tu sais, ça a aucun rapport. Investissement Québec, son but, là, c'est de placer de l'argent dans des entreprises pour que ça crée des emplois, pour que ça développe l'économie, que ça crée de la richesse. Le but d'Investissement Québec, c'est de créer de la richesse pour payer la santé, pour payer l'éducation. Faire semblant de pas comprendre ça, puis essayer, disons que ça, aujourd'hui, c'était de la grosse... T'es pas obligé d'être pour. D'ailleurs, j'étais surpris que l'opposition est vraiment contre le retour du baseball à Montréal, vraiment fortement. Hein.
Ouais, mais comme Gabriel Nadeau-Dubois, il y a le truc de demi-équipe aussi, là, qui...
Ben moi aussi.
Partager l'équipe avec Tampa Bay.
Moi aussi, ça m'inquiète.
C'est pas vendeur.
Moi, mon vrai test, là, c'est Bronfman et compagnie, combien ils mettent de vrai cash de leur poche. Parce que ce monde-là n'aime pas perdre de l'argent non plus. Là. Moi, je veux dire, si moi, comme contribuable, on me demande qu'Investissement Québec va mettre des fonds, je peux dire, OK, je vais regarder ce que les fonctionnaires d'investissement qu'on fait à Québec ont fait du projet, là, ont fait une évaluation de 8 pages, là, ben beau, des petits graphiques, tout ça. Mais mon plus gros test, là, c'est si Alain Bouchard de Couchetard puis Bronfman...
Un demi-milliard. Là.
Ouais, mais collectivement, mettre un vrai demi-milliard de cash... Je me dis, ouais.
Tu vois, ils doivent avoir fait leur calcul.
Ouais, eux ont fait de leur calcul, puis eux, dans leur vie, n'ont pas perdu si souvent que ça de l'argent. Fait que si on investit collectivement avec eux, on devrait rentrer dans notre argent.
Et je termine avec les relations entre la Chine et les États-Unis. Ouais. On apprenait hier que bon, les États-Unis allaient boycotter diplomatiquement les Jeux olympiques. Donc, les athlètes y vont, mais pas de contingent diplomatique. Mais aujourd'hui, la Chine a réagi mais très fortement. Le porte-parole de la diplomatie chinoise qui disait la tentative des États-Unis de perturber les Jeux olympiques d'hiver de Pékin était un fait fondé sur des mensonges et des rumeurs, que ça allait exposer aux yeux de tous les intentions malveillantes des États-Unis, parlant de mensonges du siècle et disant les États-Unis paieront le prix de leur mauvais coup. Restez à l'écoute. Donc, carrément des menaces de riposte, alors qu'au Canada, on est à décider qu'est-ce qu'on va faire. L'Europe également va décider de répliquer visiblement de façon coordonnée à travers l'Europe. La réaction est quand même ferme de la Chine. Et quelle sera cette riposte chinoise? On l'attend toujours.
Alors que le Canada, c'est toujours pas prononcé.
Exact. On est en attente d'une décision. On regarde un peu qui bouge avant d'y aller.
D'après moi, M. Trudeau, il y a une méchante filière sur le coin de son bureau. Chine, là, avec Huawei, les Olympiques, l'ambassadeur.
C'est ça. Est-ce que tu choisis tes combats? Est-ce que tu dis, on va y aller là, on va être plus ferme sur Huawei? Est-ce qu'on y va sur tous les dossiers? C'est pas une question facile.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.